Chapitre 3. Notre maison est très éloignée du centre, mais le petit canal est très comme il faut. C'est le coin le plus délicieux de Venise et l'on ne peut rien imaginer de plus charmant, me hâtai-je de répliquer. La voix de la vieille dame était faible et mince, mais ce murmure était agréable et cultivé, et quel émerveillement dans la pensée que ce son même avait frappé l'oreille de Geoffrey Aspern. Veuillez vous asseoir là, j'entends très bien, dit-elle avec calme, comme si je venais de hurler. La chaise qu'elle m'indiquait était à une certaine distance. J'en pris possession, l'assurant que j'étais parfaitement conscient de mon intrusion, de ce que je n'avais pas été présenté dans les formes et que je ne pouvais qu'implorer son indulgence. Peut-être l'autre dame, celle que j'avais eu l'honneur de voir la veille, lui avait-elle parlé du jardin. C'était littéralement ce qui m'avait donné le courage de faire cette démarche tellement en dehors des usages. J'étais tombé amoureux à première vue de tout l'ensemble. Elle-même y était tellement probablement habituée qu'elle ne se rendait pas compte de l'impression que cela pouvait faire sur un étranger. Pour moi, cela valait de risquer quelque chose. Pouvais-je croire que la bonté qu'elle me montrait en me recevant était une preuve que mon calcul n'était pas absolument faux? Je serais profondément heureux s'il m'était permis de le persuader et de le penser. Je pouvais lui donner ma parole d'honneur que j'étais la plus respectable et la plus inoffensive des créatures, et que comme locataire du palais, si l'on peut ainsi parler, elle serait à pleine conscience de mon existence. J'observerai tous les règlements, toutes les restrictions du monde, si seulement il m'était permis de jouir du jardin. D'ailleurs, je serais enchanté de fournir mes références, mes garanties. Elles seraient les meilleures qui se puissent avoir, tant à Venise qu'en Angleterre, aussi bien qu'en Amérique. Elle m'écoutait dans une parfaite immobilité, et je sentais qu'elle me regardait avec une grande pénétration, bien que je ne puisse voir que la partie inférieure de son visage pâli et ridé. Indépendamment de l'affinement dû à la vieillesse, il révélait une délicatesse qui avait dû être remarquable autrefois. Elle avait été très blonde, elle avait eu un teint merveilleux. Elle resta silencieuse quelque temps après que j'eus parlé. Puis elle reprit. « Mais si vous tenez tant à un jardin, pourquoi n'êtes-vous pas une terra ferma où il y en a tant d'autres, supérieurs à celui-ci ?»« Oh, mais c'est l'ensemble, » répondis-je en souriant, puis comme m'abandonnant à un rêve. « C'est l'idée d'un jardin au milieu de la mer. »« Ceci n'est pas le milieu de la mer, vous ne pouvez même pas voir l'eau. » Je la dévisageais un moment, me demandant si elle voulait me convaincre de mensonge. On ne peut pas voir l'eau, mes chères madames. Mon bateau m'amène à votre porte même. Elle semblait inconséquente, car elle dit vaguement, en réponse à ceci, « Oui, si vous avez un bateau, moi je n'en ai pas. Il y a bien des années que je n'ai été dans une de ces gondoles. » Elle prononça le mot comme s'il désignait un genre de chose bizarre et lointain, connu d'elle seulement par ouï-dire. Permettez-moi de vous assurer du grand plaisir que j'aurais à mettre la mienne à votre service, répliquai-je. Cependant, j'avais à peine prononcé ces mots que je me rendais compte que l'offre était d'un goût contestable et pourrait ainsi me nuire en me révélant trop ardent, trop poussé par un motif secret. Mais la vieille femme demeurait impénétrable, et son attitude m'agaçait en me laissant supposer qu'elle me voyait infiniment mieux que je ne pouvais la voir elle-même, moi-même. Elle ne m'adressa aucun remerciement pour mon offre quelque peu extravagante, mais fit la remarque que la dame que j'avais vue la veille était sa nièce et viendrait présentement. Elle lui avait demandé exprès de ne pas venir tout de suite. Elle avait ses raisons de désirer me voir seule d'abord. Elle retomba dans le silence, et je me mis à réfléchir, me demandant quelles pouvaient bien être ces raisons cachées, ce qui allait maintenant se passer, et encore si je pouvais me risquer à lancer quelques remarques judicieuses à la louange de sa compagne. Je me hasardai à dire que je serais heureux de revoir l'aimable absente. Elle avait témoigné tant de patience à l'égard de l'originalité dont j'avais fait preuve. Cette déclaration attira une autre des phrases drôlatiques de Miss Bordereau. « Oh, je ne tiens pas à savoir qui vous êtes, cela m'est égal. Oh, cela signifie bien peu de choses aujourd'hui. » Le discours prenait tout à fait l'allure d'une formule de congé, et je m'attendais à ce que les mots suivants me signifiassent que je pouvais prendre la porte, maintenant qu'elle s'était offert le plaisir de contempler un tel phénomène d'indiscrétion. Je fus donc d'autant plus surpris quand elle ajouta de son doux et vénérable chevrotement « Vous aurez toutes les pièces que vous voudrez, à condition que vous payiez très cher. » Je n'hésitai qu'un instant, qui me suffit pour me rendre compte de ce qu'elle voulait dire en posant cette condition. Je pensais d'abord qu'en effet elle désirait obtenir une grosse somme. Puis je fis ce raisonnement rapide que ce qu'elle appelait une grosse somme n'en serait sans doute pas une pour moi. Ma délibération intérieure, je crois, me diminua nullement la promptitude avec laquelle je répondis. Mais je paierai avec plaisir et d'avance, bien entendu, ce que vous jugerez convenable de me demander. Eh bien alors, 1 000 francs par mois, dit-elle instantanément, tandis que sa déconcertante visière continuait à masquer son attitude. Le chiffre, comme on dit, était saisissant, et ma logique prise en défaut. La somme qu'elle avait énoncée était, d'après la mesure vénitienne en ces matières, extrêmement élevée. Il y avait, dans les coins ignorés de la ville, maint vieux palais que j'aurais pu avoir à l'année pour le même prix. Mais, autant que mes ressources me le permettraient, j'étais prêt à dépenser de l'argent, et ma décision fut vite prise. Je paierai ce qu'elle demandait, d'un visage souriant. Mais alors, comme compensation, je m'emparerai de mon butin pour rien. D'ailleurs, m'eût-elle demandé 5 fois davantage, je me serais montré à la hauteur des circonstances, tant il m'aurait paru odieux d'ergoter avec la Juliana d'Asperne. C'était déjà assez bizarre d'avoir à traiter une affaire d'argent avec elle. Je l'assurais, comme est vu, concordait parfaitement avec les siennes, et que le lendemain, j'aurais le plaisir de déposer le montant de la location de 3 mois entre ses mains. Elle reçut cette affirmation avec une certaine complaisance, et sans que je puisse découvrir la moindre trace de l'idée qu'après tout, il serait convenable que je visse les chambres d'abord. Cela ne lui vint pas à l'esprit, et en somme, cette sérénité était le sentiment que je désirais par-dessus tout lui voir conservé. Nous venions de conclure notre petit arrangement lorsque la porte s'ouvrit et la plus jeune de ces dames apparut sur le seuil. Aussitôt que Miss Bordereau vit sa nièce, elle s'écria presque gaiement « Il en donne 3 000 demain !» Mais Tina se tenait immobile. Ses yeux patients se tournaient de l'un de nous à l'autre. Puis elle finit par prononcer d'un ton à peine perceptible « Vous voulez dire des francs ?»« Vous vouliez dire francs ou dollars ?» me demanda alors la vieille dame. Ben, « Je crois que vous avez parlé de francs ?» Et je souris avec assurance. « C'est très bien, » dit Miss Tina, comme si elle sentait combien sa propre question pouvait sembler avoir dépassé la mesure. Qu'en savez-vous ? Vous êtes fort ignorante, observa Miss Bordereau sans âcreté, mais avec une étrange et douce froideur. Oui, en matière d'argent, certainement en matière d'argent, se hâta de concéder Miss Tina. Oh, je suis sûr que vous possédez quelques belles branches de l'arbre de science, pris-je la liberté de dire cordialement. Il y avait je ne sais quoi de pénible pour moi dans le tour qu'avait pris la conversation, dans cette discussion à propos de francs et de dollars. Oh, elle a eu une très bonne éducation dans sa jeunesse. Je l'ai surveillée moi-même, dit Miss Bordereau. Puis elle ajouta, mais depuis, elle n'a rien appris. Mais j'ai toujours vécu avec vous, répliqua Miss Tina très doucement, et certainement sans aucune intention ironique. En effet, sans cela, déclara sa tante plus satiriquement encore. Elle voulait évidemment dire que sans cela, sa nièce ne se serait pas développée du tout. Le but de cette observation échappa à Miss Tina, bien qu'elle rougît en entendant sa propre histoire révélée à un étranger. Miss Bordereau continua en s'adressant à moi. Et à quelle heure viendrez-vous demain avec l'argent? Oh, le plus tôt sera le mieux. Si cela vous convient, je viendrai à midi. Je suis toujours ici, mais j'ai mes heures, dit la vieille femme, comme pour m'avertir qu'il ne fallait pas compter en prendre à son aise avec elle. Vous voulez dire vos heures de réception? Non, je ne reçois jamais. Mais je vous verrai à midi quand vous viendrez avec l'argent. Très bien, je serai exact. Et j'ajoutai, puis-je vous serrer la main pour sceller le contrat? Je pensais qu'il serait bon d'y mettre quelques formes. Cela me donnerait un sentiment de sécurité, car j'étais bien sûr qu'il n'y en aurait point d'autre. Et puis, bien que Miss Bordereau ne pût être considérée maintenant comme douée d'attrait personnel, et qu'il eût même quelque chose dans son antiquité ravagée qui vous tenait à distance, j'éprouvais un désir irrésistible de sentir un moment dans la mienne cette main que Jeffrey Aspern avait pressée. Pendant une minute, elle ne fit aucune réponse, et je vis que ma proposition n'avait pas le bonheur de lui agréer. Elle ne se permit pas le mouvement de recul auquel j'étais à demi préparé. Elle le dit seulement avec froideur, « J'appartiens à un temps où une telle habitude n'existait pas. » Je compris qu'on désirait me remettre à ma place, mais je m'écriai avec bonne humeur en me tournant vers Miss Tina. « Bon, cela ira aussi bien avec vous. » Et je lui serrai la main, ce à quoi elle acquiesça avec une légère hésitation. « Oui, oui. » Pour montrer que tout est bien arrangé. Apportez-vous la somme en or? Demanda Miss Bordereau au moment où je me dirigeais vers la porte. Je la regardai un moment. Mais n'avez-vous pas peur, après tout, de garder tant d'argent dans la maison? Oh, je n'étais pas troublé par son avidité, mais réellement frappé de la disparité entre une somme pareille et le peu de moyens qu'on avait de la sauvegarder. De qui pourrais-je avoir peur du moment que je n'ai pas peur de vous? Demanda-t-elle avec son amertume recuite. C'est bien, dis-je en riant. Au fait, je serai un protecteur, et je vous apporterai de l'or si vous le préférez. Merci, répliqua dignement la vieille dame avec une inclination de tête qui était évidemment un congé. Je sortis de la chambre, en songeant qu'il serait dur de la circonvenir. J'étais de nouveau dans la sala, lorsque je vis que Miss Tina m'avait suivi, et je supposai que, puisque sa tante avait négligé de m'inviter à visiter mes futurs appartements, elle se proposait de réparer cette omission. Mais elle ne me fit aucune ouverture à ce sujet. Elle se bornait à rester debout devant moi avec un sourire non pas langoureux, mais effacé. Elle donnait une impression de jeunesse irresponsable et incompétente qui faisait une opposition comique avec l'aspect fané de sa personne. Oh, elle n'était pas infirme comme sa tante, mais sa futilité me sembla plus accentuée parce que sa faiblesse était intérieure, ce qui n'était pas le cas avec Miss Bordereau. J'attendis pour voir si elle m'offrirait de me montrer le reste de la maison, mais je ne me hâtais pas de poser la question, d'autant plus qu'à partir de ce moment, tout mon plan consistait à passer le plus de temps possible dans sa société. Il s'écoula une bonne minute avant que je risquasse. J'ai eu plus de chance que je ne l'espérais. Elle a été très bonne de me recevoir. Peut-être aviez-vous dit un mot en ma faveur. C'est l'idée de l'argent, dit Miss Tina. Et est-ce vous qui avez suggéré cette idée? Oui, je lui ai dit que peut-être paieriez-vous largement. Qui vous a fait penser cela? Je lui ai dit que je pensais que vous étiez riche. Qu'est-ce qui a pu vous mettre cela dans la tête? Je ne sais pas, la façon dont vous parliez. Mon Dieu, dis-je, il va falloir que je parle autrement maintenant. Donc, je le regrette de vous dire que tel n'est pas mon cas. De fait, dit Mistina, je crois qu'à Venise, les forestieri, en général, paient souvent très cher des choses qui, après tout, n'ont guère de valeur. Elle me parut faire cette remarque dans l'intention consolante de désirer me persuader que, si je m'étais montré prodigue, ma bêtise n'était pas sans précédent. Nous marchions tout le long de la sala, et tandis que je me rendais compte de ses proportions magnifiques, je dis que je craignais qu'elle ne fît pas partie de mon quartier. Mes chambres seraient-elles par une chance heureuse de celles qui y donnaient? Non, pas si vous habitez au-dessus. Si vous allez là-haut, au second, répondit-elle en personne qui comptait que je saurais me tenir à ma place. Et j'infère de vos paroles que c'est là que votre tante désire que je sois. Elle a dit que vos appartements devraient être aussi indépendants que possible. Oui, ce sera certainement le mieux. Et je l'écoutais respectueusement, pendant qu'elle me racontait que là-haut, je pourrais occuper tout ce qu'il me plaisait, qu'il y avait un autre escalier, mais qu'il ne partait que de l'étage où nous nous trouvions, et que pour gagner le jardin ou monter à mon appartement, il me faudrait en effet traverser la grande salle. C'était un point immense de gagner. Je vis tout de suite que ce serait là que s'établirait le niveau de mes relations avec ces deux dames. Lorsque je demandai à Miss Tina comment j'allais faire à présent pour trouver mon chemin jusqu'au second, elle répondit, dans un de ces accès de sociabilité timide qui lui prenait fréquemment, « Peut-être ne le trouverez-vous pas, je ne sais pas, moins que je vous accompagne. » Évidemment, elle n'y avait pas encore pensé. Nous montâmes à l'étage supérieur et visitâmes une longue enfilade de chambres vides. Les meilleures d'entre elles donnaient sur le jardin. Quelques-unes des autres avaient la vue de la lagune bleue par-dessus les toits de tuiles grossières. Tout était poussiéreux et même un peu délabré à cause de leur long abandon, mais je vis qu'en y dépensant quelques centaines de francs, je réussirais à en rendre 3 ou 4 habitables. Mon expérience menaçait de devenir coûteuse, mais maintenant que j'avais, pour ainsi dire, pris possession, je résolus de ne plus me tourmenter à ce propos. J'informai mon interlocutrice de quelques-unes des choses que j'allais apporter, mais elle répondit d'un ton plus précipité qu'à l'habitude, que je pouvais faire tout ce qu'il me plairait. Elle semblait désirer me convaincre que les demoiselles Bordereau ne porteraient que l'intérêt le plus distant à mes faits et gestes. Je devinais que sa tante lui avait prescrit de prendre ce ton, et je dirais, dès maintenant, que j'arrivais par la suite à distinguer parfaitement, du moins à mon avis, les discours qui venaient de son propre fond de ceux que la vieille femme lui dictait. Elle n'accorda aucune attention à l'état négligé des chambres qui de longtemps n'avaient été balayées et ne m'offrit ni explication ni excuse. Je pensais que c'était là une preuve que Juliana et sa nièce, ô désenchantement, étaient des personnes désordonnées aux habitudes de basse classe italienne. Mais je reconnus plus tard qu'un pensionnaire qui a forcé l'entrée d'une maison n'est pas dans la situation voulue pour exercer sainement sa critique. Nous regardâmes la vue de maintes et maintes fenêtres, car il n'y avait rien à regarder à l'intérieur. Cependant, je désirais prolonger ma visite. Je lui demandai quelles pouvaient être diverses particularités de la vue que nous avions sous les yeux, mais dans aucun cas elle ne sut me répondre. Évidemment, la vue ne lui était pas familière. Peut-être était-elle demeurée plusieurs années sans la voir. Et je m'aperçus bientôt qu'elle était trop préoccupée d'autre chose pour pouvoir même prétendre s'y intéresser. Soudainement, elle me dit, la remarque ne lui était pas soufflée cette fois, « Je ne sais si cela vous fera quelque chose, mais l'argent est pour moi. » « L'argent, oui, l'argent que vous allez apporter. » « Mais alors, vous allez me faire souhaiter de rester ici 2 ou 3 ans. » Je parlais avec autant d'aisance qu'il m'était possible, bien que je commençasse à m'énerver de ce que ces femmes, tant associées à Asperne, ramenassent si constamment la question d'argent sur le tapis. « Ce serait excellent pour moi, » répondit-elle presque gaiement. « Vous m'en faites un point d'honneur. » Elle me regarda comme si elle n'avait pas compris, puis continua. « Oui, elle voudrait que j'en aie davantage. Elle croit qu'elle va mourir. »« Oh, pas encore, j'espère, » m'écriai-je avec une sincère émotion. J'avais parfaitement envisagé la possibilité de la destruction des documents par la vieille femme le jour où elle se sentirait près de sa fin. Je pensais que jusque-là, elle s'y cramponnerait, et j'étais tellement convaincu qu'elle relisait chaque soir les lettres d'Asperne, ou qu'au moins, elle les pressait sur ses lèvres flétries. J'aurais donné beaucoup pour jouir un instant de ses solennités. Je demandai à Mistina si sa vieille parente était sérieusement malade. Bon, elle répondit qu'elle était seulement très fatiguée. Elle avait vécu si longtemps. Elle le disait elle-même. Elle avait vécu si extraordinairement longtemps, elle voudrait bien mourir rien que pour changer. D'ailleurs, tous ses amis étaient morts depuis longtemps. Ou ils auraient dû rester, ou elle aurait dû partir. C'était encore une de ces choses que sa tante disait souvent, qu'elle n'était pas du tout résignée, c'est-à-dire résignée à vivre. « Mais on ne meurt pas quand on le veut, n'est-ce pas ?» demanda Mistina. J'ai pris la liberté de demander pourquoi, étant donné qu'elle n'avait actuellement assez d'argent pour vivre toutes deux, il n'y en aurait pas plus qu'assez au cas où elle demeurait seule. Elle se livra à la considération de ce problème difficile pendant un moment, puis elle dit « Bien, vous savez, elle prend soin de moi. Elle croit que quand je serai livrée à moi-même, je serai fort sotte et incapable de me tirer d'affaire. Oh, j'aurais plutôt supposé que c'était vous qui preniez soin d'elle. Je crains qu'elle ne soit très orgueilleuse. Quoi, vous avez déjà découvert cela ?» s'écria Mistina, avec une ombre de surprise joyeuse. Bon, j'ai été enfermé avec elle pendant un temps considérable, et elle m'a frappé, elle m'a intéressé au plus haut point. Ma découverte ne m'a pas pris longtemps. Elle n'aura pas grand-chose à me dire pendant mon séjour. Non, je ne crois pas, acquiesça ma compagne. Supposez-vous qu'elle me soupçonne de quelque chose ? Les yeux honnêtes de Mistina ne révélèrent en rien que j'avais touché un endroit sensible. Je ne le crois pas, elle vous a accueilli si facilement, après tout. Oh, vous appelez cela facilement ? Ses risques sont couverts, dis-je. Mais par où quelqu'un pourrait-il la tenir ? Si je le savais, Je ne devrais pas vous le dire, n'est-ce pas? Et avant que j'aie le temps de répliquer, Mistina ajouta avec un sourire dolent. Croyez-vous que nous ayons des faiblesses? C'est exactement ce que je vous demande. Vous n'avez qu'à me les indiquer, je les respecterai religieusement. Là-dessus, elle me regarda avec cet air de curiosité timide, mais candide et même reconnaissante, que depuis le début, elle avait avec moi. Après quoi, elle prononça « Il n'y a rien à dire, nous sommes tellement paisibles. Je ne sais comment les jours passent, notre vie n'existe pas. Bien, je voudrais pouvoir espérer que je vous en donnerai un peu. Oh, nous savons ce qui nous convient, poursuivit-elle. C'est bien ainsi. Il y avait 20 choses que j'avais envie de lui demander. Comment vraiment elles vivaient, si elles avaient des amis, des relations, quelques parents en Amérique ou dans d'autres pays. Mais je jugeais une telle enquête prématurée. Je la remis à une autre occasion. Eh bien, ne soyez pas orgueilleuse, vous au moins, me contentais-je de dire. Ne vous cachez pas de moi complètement. Oh, il faut que je reste avec ma tante, répondit-elle sans me regarder. Et à ce même instant, brusquement, sans aucune formalité d'adieu, elle me quitta et disparut, me laissant le soin de descendre tout seul. Je restai un moment, m'égarant dans ce désert chatoyant qu'était la vieille maison. Le soleil l'inondait alors de ses rayons, retournant la situation dans tous les sens, là, sur les lieux. Il ne vint même pas la petite servante aux talons sonores pour m'escorter, et je pensais qu'après tout, une telle façon d'agir prouvait au moins de la confiance. Peut-être l'indiquait-elle, mais tout de même, 6 semaines plus tard, vers le milieu de juin, au moment où Mrs. Prest se préparait à entreprendre sa migration annuelle, je n'avais fait aucune avance sensible. Je fus obligé de lui confesser que je n'avais obtenu aucun résultat pour parler franchement. Mes premiers pas avaient été d'une rapidité inattendue, mais ne paraissaient pas devoir être suivis d'autres. J'étais à 1000 lieues de prendre le thé avec mes hôtesses, privautés dont, ainsi que je le rappelais à mon excellente amie, nous avions tous deux eu la vision. Elle me reprocha de manquer d'audace, et je répondis que même pour montrer de l'audace, il faut des occasions. Vous pouvez vous lancer à travers une brèche ouverte, mais vous ne pouvez pas renverser un mur à vous tout seul. Elle répliqua que la brèche que j'avais déjà faite suffisait au passage d'une armée, et elle m'accusa de perdre des heures précieuses à gémir dans son salon au lieu de livrer bataille sur le front. C'est vrai que j'allais la voir très souvent. D'après la théorie que je trouvais auprès d'elle, la consolation bien due à l'insuccès de mon entreprise, car j'exprimais ouvertement mon découragement. Mais je finis par sentir qu'il n'est pas du tout consolant d'être perpétuellement raillé pour ses scrupules, d'autant plus injustement que, réellement, j'étais toujours à l'affût. Et je fus plutôt satisfait lorsque mon ironique ami ferma sa maison pour tout l'été. Elle avait compté s'amuser de la comédie de mes rapports avec les Miss Bordereau et était désappointée que ces rapports eussent avorté, et la comédie aussi par conséquent. « Mais elles vous mèneront à la ruine, me dit-elle avant de quitter Venise. Elles vous soutireront tout votre argent sans vous montrer le moindre bout de papier. » Je crois que je m'attelai à mon affaire avec une attention plus soutenue après son départ. C'était un fait que, jusqu'alors, je n'avais pas, sauf en une seule et brève occasion, eu un moment de contact avec mes étranges hôtesses. Cette exception s'était produite lorsque, selon ma promesse, je leur portais les terribles 3 000 francs. J'avais trouvé Mistina m'attendant dans la salle, et elle me prit l'argent des mains avec une promptitude qui m'ôta toute possibilité de voir sa tante. La vieille dame avait cependant promis de me recevoir, et manquait de sa promesse sans l'ombre d'un scrupule. L'argent était contenu dans un sac de peau de chamois, de dimension respectable, que mon banquier m'avait donné, et Mistina fut obligée de joindre ses deux mains pour le recevoir. Elle le fit avec une extrême solennité, bien que j'essayasse de tourner la chose en plaisanterie. Si ce ne fut pas dans le monde mode joyeux, ce fut néanmoins avec une franchise voisine de l'entrain qu'elle me demanda, soupesant l'argent dans ses deux paumes unies, « Ne pensez-vous pas que c'est trop ?» À quoi je répondis que cela dépendrait de la somme de plaisir que je retirerais. Là-dessus, elle se détourna de moi brèvement, comme le jour précédent, murmurant d'un ton différent de tout ce qu'elle avait employé jusque-là. « du plaisir, mais il n'y a pas de plaisir dans cette maison. » Après cela, je ne la vis pas de longtemps. Je m'étonnais qu'aucune occasion de la vie commune ne vint favoriser nos rencontres. Il était évident qu'elle était sur ses gardes pour les éviter, et il faut ajouter que la maison était si grande que nous y étions perdus l'un pour l'autre. J'étais tout animé de l'espoir de la découvrir quand je traversais la salle dans mes allées et venues, mais je n'étais même pas récompensé par la moindre vision de sa robe. C'était absolument comme si elle ne mettait jamais le nez hors de l'appartement de sa tante. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien faire, là, de jour en jour et d'année en année. De ma vie, je n'avais rencontré une telle volonté de réclusion. C'était pire que de mener une vie obscure. C'était comme l'existence de deux créatures pourchassées et simulant la mort. Les deux dames ne paraissaient recevoir aucune visite, n'avoir aucun contact avec le monde. Car il me semblait bien que personne ne pouvait entrer dans la maison, ni que Mistina ne pouvait en sortir sans que je m'en aperçusse. Je fis ce que je n'aimais pas faire, mais je me le pardonnais pour une fois. Je questionnai mon domestique sur leurs habitudes et lui laissai entendre que toute information à leur sujet qu'ils pourraient obtenir serait intéressante pour moi. Mais il récolta étonnamment peu pour l'un vénitien qu'il était. Il faut bien dire que là où règne un jeûne perpétuel, peu de miettes tombent de la table. Les capacités de mon serviteur dans d'autres branches étaient suffisantes, sinon absolument à la hauteur de celles que je lui avais attribuées à ma première entrevue avec Mistina. Il avait aidé mon gondolier à m'amener une charretée de mobilier, et quand ces divers objets furent arrivés au haut du palais et distribués suivant les règles de notre commune sagesse, il organisa mon train de maison, lui donnant toute la dignité compatible avec le fait qu'il le constituait à lui tout seul. Bref, il me fit une vie aussi confortable que l'instabilité de mon avenir pouvait le permettre. J'aurais désiré qu'il tombât amoureux de la servante de Miss Bordereau, ou à défaut de cela, qu'il la prît en aversion. Chacun de ces événements pouvait provoquer une catastrophe, et une catastrophe pouvait mener à une conversation. J'avais l'idée qu'elle ne demandait qu'à se montrer sociable, et comme je la voyais voleter ici et là, allant exécuter quelques courses pour la maison, il était donc possible d'entrer en rapport avec elle. Mais ma soif d'information ne put se désaltérer à cette fontaine, et j'appris plus tard que les affections de Pasquale s'étaient fixées sur un objet qui le rendait indifférent à toute autre femme. C'était une jeune personne qui possédait un visage poudre de risée et venait souvent le voir. Elle pratiquait le métier d'enfileuse de perles, quand cela lui convenait, ses ornements se fabriquant à profusion dans Venise. Ses poches en étaient pleines, et je rencontrais perpétuellement sur le sol de mon appartement et dans la maison, elle observait d'un œil méfiant sa rivale possible. Bien entendu, ce n'était pas à moi de faire bavarder les domestiques, et je n'adressais jamais la parole à la cuisinière de Miss Burrow. Une preuve me frappa de cette résolution prise par la vieille femme de n'avoir jamais affaire à moi. Elle ne m'envoya aucun reçu des 3 000 francs que j'avais payés pour ma location. Je l'attendis pendant quelques jours, puis, quand j'y eus renoncé, je perdis bien du temps à me demander quelle pouvait être sa raison de négliger une formalité aussi courante et aussi indispensable. Au premier moment, je fus tenté de la lui réclamer. Après quoi, je renonçai à cette idée, bien que je fusse convaincu que j'aurais eu raison de le faire en ce cas particulier, pour m'en tenir à la résolution générale de ne soulever aucune difficulté. Si pourtant Miss Bardrow me soupçonnait de nourrir des plans ultérieurs, peut-être me soupçonnerait-elle moins en me voyant user avec elle de procédés d'affaires. Cependant, je renonçais à les employer. Il était possible qu'à ses yeux, cette omission jouât le rôle d'une impertinence, d'une ironie bien visible, pour montrer comment elle savait traiter de haut les gens qui avaient essayé de la traiter d'eux-mêmes. D'après cette hypothèse, il était bon de lui faire voir que ses petits manèges passaient inaperçus. La réelle explication de la chose, je le découvris plus tard, était tout simplement le désir éprouvé par la pauvre dame de souligner le fait que je jouissais d'une faveur aussi sévèrement limitée qu'elle avait été libéralement octroyée. Elle m'avait donné une partie de sa maison, mais à cela, elle n'ajouterait pas la moindre feuille de papier avec son nom dessus. Je dois dire que même au premier moment, cela ne me fut pas trop désagréable, car la situation entière me charmait par son originalité. Je prévoyais un été fait à souhait pour mon âme d'homme de lettres, et la sensation d'exploiter l'étonnante occasion était infiniment plus puissante que celle d'être exploité moi-même. Une intrigue vénitienne ne pouvait se poursuivre sans patience, et du moment que j'adorais les lieux, j'entrais beaucoup plus dans leur esprit en accumulant une forte provision. Cet esprit de Venise me tenait une constante compagnie et semblait me regarder à travers le visage immortel et ressuscité et tout rayonnant de génie du grand poète qui m'inspirait. Je l'avais invoqué et il était venu. Il errait autour de moi la moitié du temps. C'était comme si son beau fantôme était revenu par terre pour m'assurer qu'il tenait cette affaire comme sienne autant que mienne et que nous l'amènerions fraternellement et tendrement à sa conclusion. C'était comme s'il me disait « La pauvre amie, ne la bousculez pas, ses préjugés sont naturels, laissez-lui le temps de se reconnaître. Quelque étrange que cela doive vous sembler, elle était fort séduisante en 1820. En somme, nous sommes à Venise ensemble, et quel lieu du monde serait préférable pour la rencontre de deux amis ? Voyez comme la ville s'épanouit à mesure que l'été s'avance. Comme le ciel et la mer et l'air rose et le marbre des palais frémissent et se fondent tous à la fois. Mon propre but, mon drôle de but personnel, devenait un élément de poésie ambiante et de l'exaltation générale. Je me sentais même un compagnonnage mystique, une fraternité morale avec tous ceux qui, dans le passé, s'étaient enrôlés au service de l'art. Ils avaient servi le beau, il s'était voué à un culte. Que faisais-je d'autre? On le retrouvait, cet élément, dans tout ce qu'avait écrit Jeffrey Aspern, et je ne faisais que l'amener au jour. Au cours de mes allées et venues, je m'attardais dans la salle. Je restais là aussi longtemps que les convenances me le permettaient, épiant la porte qui menait à cette partie de la maison habitée par Miss Bordereau. Un observateur aurait pu supposer que je tentais de lui jeter un sort ou que j'essayais quelque bizarre expérience d'hypnotisme. Mais je me bornais à prier le ciel qu'elle s'ouvrît ou à songer quel trésor y était probablement enfoui. Il est singulier, quand j'y repense, que je n'ai jamais douté un moment que les reliques sacrées fussent là, jamais cessé de goûter la joie d'habiter sous le même toit qu'elle-même. Après tout, elles étaient là, sous ma main. Elles ne m'avaient pas encore échappé. Et en quelque sorte, elles rattachaient ma vie à la vie illustre à laquelle elle-même tenait par l'autre bout. Je m'abandonnais à ses rêves, au point de me figurer dans ma douce folie que la pauvre Mistina aussi rétrogradait et se réincarnait dans le passé, ainsi que je me l'exprimais à moi-même. C'était bien ce qu'elle faisait, la douce vieille fille, mais pas tout à fait jusqu'à Geoffrey Aspern, dont, tout comme moi, elle ne pouvait connaître l'existence que par ouï-dire. Mais depuis de longues années, elle vivait avec Juliana. Elle avait vu émaner tous les souvenirs, et bien qu'elle fût sotte, elle s'était imbibée d'une espèce de savoir ésotérique. Voilà ce que représentait la vieille en ce monde, le savoir ésotérique. Et c'était cette idée même qui faisait palpiter mon cœur de critique. Littéralement, il battait souvent plus fort les soirs où, rentrant me coucher, je m'arrêtais, mon bougeoir à la main, dans la salle pleine d'écho. C'était à ces moments-là, dans le profond silence, une fois le long paradoxe de la journée écoulé, que les secrets de Miss Bordereau venaient flatter dans l'air, que le prodige de sa survivance devenait plus saisissant. Celles-là étaient des impressions intenses. J'en éprouvais d'autres sous une autre forme, avec une certaine apparence de réciprocité, pendant les heures que je passais, assis dans le jardin, à regarder par-dessus mon livre les fenêtres closes de mes hôtesses. À ces fenêtres, nul signe d'une existence quelconque. Il semblait que, de peur d'être seulement entreaperçues de moi, les deux dames se fussent condamnées à vivre dans les ténèbres. Mais ceci ne servait qu'à souligner qu'elles avaient quelque chose à cacher. Leurs volets immobiles me devinrent aussi expressifs que des yeux volontairement clos, et je trouvais un certain plaisir à penser que, bien qu'invisibles elles-mêmes, elles ne me quittaient pas de vue à travers leurs paupières baissées. Je tenais à passer le plus de temps possible dans le jardin pour justifier la déclaration que j'avais faite au début de ma passion pour l'horticulture. Et non seulement cette attitude me coûtait du temps, mais aussi, oh que le diable m'emporte, me dis-je, de l'argent, de mon rare et précieux argent. Aussitôt que mes chambres avaient été arrangées et que j'avais pu prêter à cette question l'attention convenable, je visitais le terrain avec un expert consommé et fit marcher pour sa mise en état. Au fond, je regrettais d'agir ainsi, car personnellement, je le préférais tel qu'il était, avec ses mauvaises herbes et son abondant désordre sauvage, sa négligence exquise, si caractéristique et si vénitienne. Mais il me fallait être conséquent, tenir la promesse que j'avais faite d'ensevelir la maison sous les fleurs. Et puis, je me cramponnais au doux espoir que, grâce aux fleurs, je ferais mon chemin. Les bouquets assureraient mon triomphe. J'assiégerai les vieilles de Lys, je bombarderai de roses leur citadelle. Leurs portes céderaient à la pression de l'entassement de parfums que j'y accumulerai. Mais vraiment, ce terrain avait été négligé d'une façon ignoble, et la capacité vénitienne pour la flânerie étant immense, pendant bon nombre de jours, tout ce que mon jardinier eut à me montrer comme fruit de ses travaux fut un tas illimité d'ordures. On creusait beaucoup de trous, on transportait beaucoup de terre, et cela m'impatientait tellement que je songeais sérieusement à me procurer les résultats désirés à la boutique la plus proche. Mais j'étais sûr que mes voisines verraient immédiatement, à travers les fentes de leurs volets, que de tels hommages ne pouvaient venir de là-dessous, et seraient induites à se faire une idée fausse de ma véracité. Je méprisais donc mon âme. Et finalement, bien que le délai fût long, j'aperçus quelques apparences de floraison. Ceci m'encouragea et j'attendis avec sérénité qu'elles se multipliassent. Pendant ce temps, le véritable été arriva, commença à passer, et il me semble, en regardant en arrière, que ces jours furent presque les plus heureux de ma vie. De plus en plus, je m'efforçais d'être au jardin quand il ne faisait pas trop chaud. J'avais fait arranger une tonnelle et j'y mis une table basse et un fauteuil. J'y apportai livres et portefeuilles. J'avais toujours quelques manuscrits en train. Et je travaillais, j'attendais, je rêvais et j'espérais. Tandis que les heures d'or s'écoulaient, que les plantes buvaient la lumière et que l'indéchiffrable vieux palais pâlissait, puis à mesure que le jour baissait, retrouvait sa teinte rose, et mes papiers bruissaient à la brise fantasque de l'Adriatique. Étant donné le peu de satisfaction que je retirais tout d'abord de ma surveillance, il est étonnant que je ne me sois pas lassé d'essayer de deviner quel rite mystérieux de l'ennui les demoiselles Bordereau célébraient dans leurs chambres obscures. Si tel avait toujours été le rythme de leur vie, et comment les années précédentes elles avaient réussi à ne jamais rencontrer leurs voisins. Il fallait supposer qu'elles avaient jadis d'autres habitudes, d'autres allures et d'autres ressources, qu'à un certain moment elles avaient dû être jeunes ou du moins d'âge moyen. Les questions qu'on avait à se poser à leur sujet étaient sans fin, et sans fin aussi les réponses impossibles à formuler. Je connaissais en Europe bon nombre de mes compatriotes et étais fort habitué aux mœurs singulières qu'ils étaient susceptibles d'y prendre, mais les demoiselles Bordereau constituaient un type absolument nouveau de l'Américain émigré. On pouvait dire qu'il n'y avait plus lieu de leur appliquer le qualificatif d'Américain. Ce n'était vraiment apparu pendant les 10 minutes que j'avais passées chez la vieille femme. Allez voir, vous n'eussiez jamais deviné leur origine, quelle qu'elle fût, depuis longtemps. Toute espèce de signe d'allure héréditaire avait été désapprise et abandonnée. Rien chez elles ne se rattachait ni ne rappelait une tradition familiale. Et la question de langue mise à part, elles auraient pu aussi bien être espagnoles ou norvégiennes. Miss Bordereau, après tout, avait vécu en Europe près de 3/4 siècle. Il ressortait de quelques vers à elle adressés par Aspern à l'occasion de sa seconde absence d'Amérique, vers dont la date avait été assez solidement établie par Kummer et moi, après des conjectures infinies, qu'elle était dans ce moment jeune fille d'une 20aine d'années, de l'autre côté de l'Adriatique. Il y avait dans ce poème la déclaration, j'espère que ce n'était pas seulement une déclaration poétique, qu'il revenait en Europe pour l'amour d'elle. Nous n'avions aucun éclaircissement sur le genre de vie qu'elle menait alors, pas plus que sur son origine, que nous avions des raisons de ranger parmi celles généralement qualifiées de modestes. La théorie de Kummer était qu'elle avait été institutrice dans une famille où fréquentait Aspern, et qu'à cause de sa position, il y eut dès le début quelque chose d'inavoué, ou disons-le franchement, quelque chose de nettement clandestin dans leur relation. D'un autre côté, j'avais couvé mon petit roman, selon lequel elle était fille d'un artiste peintre ou sculpteur qui avait quitté les Amériques quand le siècle était jeune pour aller étudier les écoles anciennes. Dans mon hypothèse, il était essentiel que cet aimable homme eût perdu sa femme, qu'il fût pauvre et méconnu et qu'il eût une seconde fille d'un tempérament tout à fait différent de celui de Juliana. Ah, il était également indispensable que ces jeunes personnes l'eussent accompagné en Europe et qu'il s'y fût établi pour le restant de sa difficile et triste existence. Il fallait en outre attribuer à Miss Bordereau, dans sa jeunesse, un caractère à la fois téméraire et pervers, bien que séduisant et généreux, et admettre qu'elle avait affronté des risques extraordinaires. De quelles passions avait-elle été ravagée? Quelles aventures et quelles souffrances avaient blanchi? Quel trésor de souvenirs avait-elle amoncelé pour alimenter le monotone avenir? Je me demandais ces choses, assis sous ma tonnelle, dévidant des théories à son sujet, tandis que les abeilles bourdonnaient parmi les fleurs. Il était incontestable que, à tort ou à raison, la plupart des lecteurs de certains poèmes d'Asperne, poèmes moins ambigus et à peine moins divins que les sonnets de Shakespeare, tenaient pour avéré que Juliana n'avait pas toujours adhéré à la voie du renoncement et du sacrifice. Il flottait autour de son nom une odeur de passion impénitente, une impression qu'elle n'avait pas été exactement ce qu'on appelle une jeune personne comme il faut. Était-ce signe que son chantre l'avait trahi? On avait fait de la copie, comme nous dirions aujourd'hui? Il aurait été difficile de mettre le doigt sur une page où l'honneur de sa réputation eût souffert quelque injure. Et d'ailleurs, n'était-ce pas assez d'honneur pour sa réputation que d'être assuré de durer et associé à des œuvres de beauté immortelle? J'avais dans l'idée que la jeune personne avait eu un amant étranger, et disons une rupture tragique et peu édifiante, avant sa rencontre avec Jeffrey Aspern. Elle vivait avec son père et sa sœur dans cette drôle de bohème vieux jeu, artiste et cosmopolite, en ces temps où les esthètes étaient encore académiques, et où les peintres, qui savaient dénicher les plus beaux modèles de Contadine et de Pifferari, portaient des feutres pointus et des cheveux longs. C'était une société ignorante des choses merveilleuses, des occasions, des terres vierges à travers lesquelles Saoud passait. Une société moins avertie que les coteries d'aujourd'hui quant aux flambeaux de vieilles étoffes et aux tessons de vieilles faïences, car Miss Bordereau ne semblait pas avoir ramassé ou hérité de beaucoup d'objets de valeur. Il n'y avait rien de ce bric-à-brac désirable, à légende provocante de prix de misère, dans la chambre où je l'avais vue. C'était presque le vide absolu. Mais cela cadrait bien avec l'intérêt sentimental que j'avais toujours pris au premier voyage de touriste que mes compatriotes firent en Europe. Quand les Américains quittaient leur pays en 1820, il y avait là quelque chose de romantique, presque d'héroïque, en comparaison avec les incessants passages en bac de leur présent de cette heure où la photographie et autres commodités ont annihilé la surprise. Miss Bordereau avait navigué avec sa famille sur un brick roulant et tanguant, au jour des longs voyages et des aventures hasardeuses. Elle avait ressenti des émotions sur les impériales des diligences jaunes. Elle avait passé des nuits dans des auberges en rêvant de récits de voyage. Et ce qui la frappait le plus en entrant dans la ville éternelle, c'était l'élégance des perles et des écharpes romaines et les broches en mosaïque. Pour moi, il y avait quelque chose de touchant dans tout cela, et mon imagination s'y reportait fréquemment. Si Miss Bordereau avait le don de l'y entraîner, Jeffrey Aspern, bien entendu, le faisait à d'autres moments avec une puissance incomparable. Pour l'examen critique de son génie, c'était un fait des plus importants qu'il eût vécu à une époque antérieure à l'universelle transfusion de sang. Il m'était arrivé de regretter qu'il eût connu l'Europe. J'aurais aimé voir ce qu'il aurait écrit dans cette expérience qu'il avait incontestablement enrichie. Mais, puisque son destin en avait décidé autrement, je le suivais. J'essayais de me rendre compte de la façon dont les mœurs anciennes l'avaient impressionné. Mon observation, cependant, ne s'arrêtait pas là. Après tout, c'était dans son propre pays que s'était écoulée la majeure partie de sa vie, et sa muse, comme on disait de son temps, était essentiellement américaine. C'était originairement ce que j'avais prisé en lui, qu'à une période où notre terre natale était pauvre, primitive et provinciale, quand le manque de la fameuse atmosphère qui est supposée lui faire défaut n'était même pas ressenti, quand la littérature y était négligée, l'art et la plastique presque impossibles, il avait trouvé moyen de vivre et d'écrire comme un des plus grands, d'être lui-même, d'être universel, de n'avoir peur de rien, de sentir, de comprendre et d'exprimer tout.